BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Pierre Servent qui nous accompagne. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabrice.
Spécialiste des questions de défense, auteur de « Les présidents et la guerre ». 1958-2017, il y aura probablement un huitième chapitre un jour avec Emmanuel Macron, donc qui s'était rendu quelques jours après son élection donc au Mali à Gao, voir les troupes françaises. Myriam Benrad, bonjour.
Bonjour.
Myriam Benrad, spécialiste du monde arabe, du Moyen-Orient, qui fait paraître cette semaine l'État islamique pris au mot. Oui, vous avez analysé de façon approfondie tous les écrits, tous les contenus audiovisuels, hein, les communiqués, les magazines, etc., les éléments de propagande de l'État islamique, pour essayer de bien comprendre justement. Oui, ce hors-série consacré à l'État islamique et à Al-Qaïda, on verra d'ailleurs comment ils se distinguent l'un et l'autre, évidemment, tout ça n'est pas très très simple. Tiens, Pierre Servent, comment sont nés ces mouvements? À quel moment est-ce que la genèse est à trouver du côté de l'Arabie Saoudite dans les années 70-80?
Oui, effectivement, c'est mon analyse, c'est-à-dire que en Arabie Saoudite, depuis le XVIIIe siècle, les tribus d'Arabie Saoudite ont adopté le wahhabisme, qui est une lecture extrêmement rigoriste, je dirais totalitaire, très enfermée. C'est une lecture, qui est différente d'autres lectures qui ont existé de l'islam. Donc c'est une lecture vraiment fondamentaliste. Et à partir des années 60, quand il y a eu notamment en Égypte le réveil du nationalisme arabe, souvent laïque, vous avez les partis baassistes qui sont nés en Syrie, notamment en Irak, qui étaient des partis laïques. En Égypte, à l'époque, il n'y avait pas de femmes voilées. Nasser faisait des discours où il se moquait des femmes voilées, des intégristes et des religieux. Et donc Riyad, l'Arabie Saoudite, a très mal vu, parce que Riyad est protecteur des lieux saints, la Mecque et Médine. C'est aussi, il faut le dire, un business. C'est d'ailleurs devenu ces dernières années un formidable business. Certains estiment que c'est devenu le Las Vegas de l'islam, avec des problèmes de sécurité énormes. Mais donc Riyad voit cela et se lance dans une contre-propagande religieuse qui va être alimentée à partir des années 70 et le choc pétrolier par une masse financière considérable qui va permettre à l'Arabie Saoudite de payer des bourses, de construire des mosquées et de former, enfin d'essayer d'influencer au maximum le monde musulman, pas seulement arabo-musulman mais également en Afrique, sur fond de populations souvent lâchées par les pouvoirs centraux, donc les fonds sociaux, les aides caritatives ont joué ce rôle-là et il y a eu une onde de choc en deux temps. Donc les années 70 avec l'argent qui est arrivé, et puis 79, vous en souvenez, la révolution Khomeini, la république islamique, république, ouais. Alors une monarchie, c'est l'horreur.
Insupportable.
Et ce sont des chiites, ouais. Et ce sont des chiites qui en quelque sorte doublaient les salafistes, parce que finalement salafisme, wahhabisme, c'est un peu les deux mêmes faces de la même pièce, salaf, les ancêtres, donc l'idée qu'on revient aux origines et que plus on se rapproche d'une sorte de l'époque de Mahomet de façon intégriste, plus on est proche du cœur de religion. Donc c'est ça le tronc commun idéologique et Al-Qaïda puis Daesh étant pour moi un rejeton d'Al-Qaïda, y compris on parlera des hommes pour voir
les filiations.
Et finalement Al-Qaïda fondé par un ressortissant de l'Arabie Saoudite,
d'une
famille fortunée, c'est la version djihadiste radicale, c'est-à-dire la version qui va jusqu'au bout de la logique d'influence, en disant effectivement, il faut que la planète soit entièrement, non pas musulmane, mais salafiste, c'est-à-dire vraiment une partie du sunnisme, ce qui fait que tout le reste, les croisés, les juifs, les sunnites non salafs, les chiites, les apostats, etc., tout cela, c'est le mal, et c'est à détruire, et Daesh est un enfant d'Al-Qaïda, notamment de la guerre en Irak à partir de 2003, on y reviendra.
Sur cette logique manichéenne, cette division binaire du monde, qu'a très bien expliqué Myriam Benrad, je vous donne la parole dans un instant, soyez patiente Myriam, simplement, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, dans ses années 70-80, forte justement de son pouvoir, s'est lancé dans ce qu'on appelle un salafisme de combat, une formation des imams. On a vu un certain nombre de combattants en Bosnie, par exemple, se revendiquer clairement justement du salafisme de l'Arabie Saoudite. Et puis il y a eu l'intervention américaine en Irak, justement, l'émergence de combattants sunnites comme Zarqawi, donc qui était patron de la branche Al-Qaïda en Irak.
Un Jordanien.
Tendance à la radicalisation successive. Voilà, tout ça s'est fait extrêmement vite.
Alors ça s'est fait, disons, c'est quand même sur 50 ans. C'est-à-dire que pour moi, l'influence, alors, le wahhabisme saoudien a imprégné les esprits, a marqué. C'était un travail souterrain avec la complicité de pays européens, le Royaume de Belgique qui passe un accord avec le Royaume d'Arabie Saoudite pour que les imams belges soient formés en Arabie Saoudite. Donc une espèce d'inconscience, notamment du monde occidental, face à ce mouvement. Et ce travail d'influence de l'Arabie Saoudite, je vais vous donner un détail que j'ai vu moi-même quand j'étais en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo.
Quand j'étais en Bosnie, à ce moment-là, comme officier de...
J'étais donc là, c'était 97, notamment, et en sortant du cabinet du ministre de la Défense. Et Sarajevo était une ville où les religions cohabitaient sans difficulté.
Il y a une synagogue, il y a une cathédrale et il y a une grande mosquée.
Voilà.
C'est magnifique.
Les jeunes femmes qu'on appelait bosno-musulmanes ne portaient pas le voile, étaient souvent dans des tenues extrêmement sexy, on va dire. D'ailleurs, ça attirait le regard des soldats de l'ASFOR ou de l'IFOR. Et puis, à un moment, tout d'un coup, on a vu ces mêmes jeunes filles, toujours avec des tenues très décontractées en bas, mais avec des voiles. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, elles allaient à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Elles touchaient 50 Deutschmark, puisqu'il n'y avait pas l'euro.
Non, non.
Le Deutschmark était la monnaie de référence.
La monnaie de
et 50 Deutschmark, à l'époque, hein, je parle de 97, c'était une somme. En échange de quoi? Alors, évidemment, quand elles allaient à l'ambassade, elles s'habillaient avec une robe qui descendait. Elles recevaient le voile, elles s'engageaient à le porter contre les 50 Deutschmark. Elles sortaient, elles mettaient le voile par honnêteté, mais elles se remettaient en mini-jupe ou en short ras-le-bonbon, comme on dit, c'est un peu vulgaire. Là. Donc, c'est un tout petit détail, mais ça montre comment cette imprégnation de fait. Et puis, à partir de ce moment-là, ça, c'est la boîte de Pandore ou Frankenstein qui a été nourri par cette approche.
Alors, justement, Myriam Benrad, il faut nous expliquer justement comment, d'une approche, comme vient d'expliquer Pierre Servant, en effet, pour convertir des femmes à mettre le voile, on en arrive, et ce que vous expliquez très très bien dans l'État islamique pris au mot, donc à ces exécutions massives au Moyen-Orient, ces crucifixions, ces décapitations au couteau, ces assassinats, ces agressions de fonctionnaires, de policiers aussi dans les territoires occidentaux, en France, au Royaume-Uni ou ailleurs. Comment expliquer le passage à la violence?
Oui. Alors, pour compléter ce qui a été dit, d'une part, ce qu'on appelle le djihadisme, et c'est ce que j'essaie de mettre en avant dans l'ouvrage, c'est une idéologie, mais une idéologie complexe, hein, qui regroupe un certain nombre de mouvements, lesquels sont plus ou moins en accord les uns avec les autres, et qui s'est bâtie sur un ensemble d'influences. Alors, on a parlé du wahhabisme, le salafisme. Le terme salafia, pour la précision historique, c'est important, remonte au XIXe siècle. Le salafisme, c'est un mouvement lui-même très hétérogène. Hein. On a eu un courant réformiste qui consistait à dire qu'il fallait s'adapter à la modernité occidentale, qu'il fallait réformer le monde musulman. Et puis, on a le côté plus réactionnaire, conservateur, qui, au contraire, estime qu'il faut rejeter la modernité occidentale, qui, à l'époque, était synonyme, évidemment, de colonialisme, hein, de pénétration coloniale européenne, pour purifier l'islam, revenir aux origines, donc c'est vraiment évidemment tout le sens, hein, de salaf, les ancêtres, revenir à un islam des origines. Mais cette conception de l'islam, donc salafiste, le retour aux origines, plutôt, je dirais, la notion d'authenticité, elle est tout de même réinventée. Hein. Elle se fait, elle se développe dans un contexte historique où une certaine frange des musulmans sunnites considère qu'il faut revenir à l'authenticité parce qu'ils considèrent qu'elle a été en quelque sorte ternie, salie par l'influence de l'Occident, de la modernité.
Alors comment on en arrive justement à une telle radicalisation, justement, donc ce passage à la violence qui conduit bien à perpétrer des attentats, des assassinats partout dans le monde?
Alors on a effectivement aujourd'hui ce qu'on appelle le courant, enfin ce qui a été conçu conceptuellement comme le courant salafiste djihadiste. Alors l'influence du wahhabisme, mais plus largement les mouvements salafistes, parce qu'il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, le salafisme s'est développé dans d'autres pays. Historiquement, il faut bien comprendre...
Lesquels, par exemple, dans ces...
Par exemple, le salafisme en Irak s'est développé dès les années 80 aussi, hein, pendant la guerre contre l'Iran. L'idée, comme vous l'aviez dit, de résurgence aussi religieuse, puriste, conservatrice, en réaction à l'influence régionale de l'Iran, avec la République islamique. Bon, l'Égypte, hein, le père fondateur, idéologiquement parlant, du djihadisme contemporain, c'est un Égyptien. C'est l'Égyptien Saïd Qutb que je mentionne dans mon ouvrage, qui a été en fait l'idéologue essentiel, principal du djihadisme, qui était égyptien, qui a d'ailleurs développé beaucoup de sa pensée lorsqu'il était en Amérique. Toute cette pensée anti-occidentale, anti-américaine, cette haine de l'Occident, il la développe alors qu'il est envoyé aux États-Unis pour étudier dans le Colorado. Ça, c'est quand même très important, parce qu'il y a toute une histoire personnelle derrière ces idéologues. Le rôle de Ben Laden, et le fait qu'on va passer au niveau des objectifs d'une lutte, donc, initialement dans la région, cantonnée au monde musulman, contre les régimes en place, qui sont considérés comme des régimes laïcs, impies, liés aux occidentaux, et la globalisation de la lutte. Là, ce sera plutôt la mouvance Ben Laden, avec d'autres idéologues clés, Abdallah Azzam, Zawahiri, évidemment, qui a repris le flambeau, qui, eux, considèrent qu'il faut, au contraire, une lutte globale pour islamiser le monde, ou djihadiser plutôt le monde, hein, selon leur version de l'islam, prendre le pouvoir et s'en prendre à la fois donc aux tyrans, hein, ce qu'ils appellent, ça j'en parle dans mon livre, les fameux tawarites dans leur langage, les tyrans dans la région, d'où le fait qu'ils prennent les présidents, les ministres, la police, les armées comme cibles, cible, parce que ce sont des symboles de cette tyrannie, et l'Occident qui, lui, est l'agresseur ultime à leurs yeux.
Sur quel fondement ça repose, Daesh? Je le disais, vous avez parlé couramment arabe, bien sûr, vous le lisez, bien entendu, vous avez analysé tout de façon méthodique. Ce que vous dites, c'est que Daesh repose sur une logique manichéenne avec une division binaire du monde. Alors, vie et mort, Occident et Orient, utopie et dystopie, grandeur et décadence... Ils savent très bien jouer aussi de la force du discours.
Oui, alors je crois qu'on ne l'a pas mis assez en avant, mais le djihadisme, la force du discours djihadiste, de l'énoncé djihadiste, c'est cette vision binaire du monde. Voilà, parce que d'un côté, il y a l'État islamique, de l'autre, il y a le reste du monde. Donc comme je l'ai dit, les occidentaux, les régimes, les musulmans dits apostats, hérétiques, les minorités, etc. Donc on est vraiment dans une logique de purification, d'opposition, d'antithèse parfaite, en tout cas à leurs yeux. C'est bien pour ça qu'ils s'attaquent tout le monde, hein, parce qu'ils se considèrent comme les seuls ayant finalement le droit de cité, le droit de vie. Alors, exemple, je vous parlais de l'Orient et de l'Occident. Oui, bien sûr qu'ils construisent un Occident fantasmé. L'Occident, qu'est-ce que c'est que l'Occident, hein ? Autant on peut reprocher finalement à une certaine littérature orientaliste d'avoir à une époque construit l'Orient, autant, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, ils répliquent cette pensée sous la forme d'un occidentalisme qui consiste finalement à présenter l'Occident comme diabolique, comme en guerre éternelle contre les musulmans, alors qu'il y a un certain nombre de communautés musulmanes qui vivent en Occident, dans le dit Occident, depuis très longtemps, et surtout qu'on s'est bâti sur des échanges avec le monde musulman constant, historique et riche. Donc ils ont une définition de la civilisation islamique aussi qui est quand même très très déformée, dévoyée, qui ne correspond pas aux relations que ce même monde musulman a entretenu avec ce qui est devenu ensuite l'Occident, après notamment la chute, évidemment, de l'Empire romain, la période moyenâgeuse qui va accoucher de cette notion d'Occident, mais qui ne faisait pas sens à l'époque. Je vous donne un autre exemple, je vais finir pour pas être trop longue. Les croisades, la manière dont ils parlent des croisades, dont ils revendiquent finalement ce djihad contre les croisés, c'est une relecture de l'histoire déformée à la fois du côté de la manière dont les peuples de la région ont vécu ces mêmes croisades à l'époque, déformé du point de vue aussi des dix croisés, parce que en quoi les Occidentaux aujourd'hui sont les héritiers de ces croisades, tout cela c'est très très simplifié dans leur langage, mais c'est ce qui fait leur force.
Oui, et d'ailleurs, tiens, Pierre Servant, la terminologie de la croisade que vient de citer Myriam Benrad, terminologie utilisée par George W. Bush, hein, au moment de son intervention en Irak, est-ce que quelque part ça les a pas renforcés, légitimés peut-être aussi?
Oui, effectivement, ils savent très très bien utiliser toute la sémantique pour, comme le dit très bien Myriam, articuler, renforcer ce discours consistant à dire depuis la nuit des temps, il y a un complot contre la seule vraie religion, celle qui porte la lumière, et il y a toute une série de forces obscures qui essayent d'écraser cette religion. Pour rebondir sur ce que disait Myriam, qui est très important, qui campe vraiment le paysage, j'avais été frappé il y a déjà plusieurs années de voir que dans la littérature d'Al-Qaïda, il y avait un début de travail intellectuel, entre guillemets, avec des textes beaucoup plus élaborés que ceux qu'on avait trouvés auparavant. Les services secrets trouvaient ces documents-là, en Afghanistan notamment, ou en Irak. C'est-à-dire qu'il y avait une recherche de la part d'Al-Qaïda d'aller toucher d'autres populations que une sorte de loupen prolétariat du djihadisme, mais des intellectuels, des personnes, et donc avec des textes très articulés, très, alors évidemment reconstruits, réhabillés, mais apparemment solides sur le plan intellectuel. Et Daesh finalement a poursuivi cela et a bénéficié de la révolution numérique, etc., pour apporter ce supplément, je dirais, pseudo-intellectuel, qui fait qu'on a commencé à avoir un peu une mue dans les terroristes passant à l'action. Rappelez-vous 2005, où on voit en Grande-Bretagne des médecins, des gens intégrés, et plus du tout, ce qui, entre parenthèses, cassait une partie du discours de gauche, notamment en France ou en Europe, sur le thème, mais ce sont encore une fois des victimes, des pauvres victimes du colonialisme. Et en fait, là, maintenant, on sait que ça n'est pas ça, parce que ça touche Daesh à des ressortissants d'à peu près 90 pays, mais qu'on a vraiment le courant que décrivait Myriam, et qui est aussi, je termine par là, une revendication identitaire, c'est-à-dire pour moi un refus des Lumières, c'est-à-dire une difficulté de l'islam d'aller vers les lumières de l'islam, et donc un repli, un refus vers ce qui est le plus facile, qui est le repli identitaire contre. On bétonne l'identité, on construit une histoire manichéenne, on profite aussi de la pauvreté des personnes, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement de beaucoup des pays dans lesquels l'islam joue, enfin, notamment l'Arabie Saoudite, où les fonds du Golfe jouent sur le caritatif. Et dernier point, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'Arabie Saoudite, en 50-60 ans, a largement contribué à une paupérisation intellectuelle du monde arabo-musulman, qui a connu des périodes fastes, très fastes sur le plan intellectuel. Juste des chiffres que le monde avait donnés, il n'y a plus de prix Nobel, de médailles Fields. Il y en a quelques-uns encore chez les Perses. Mais chez le monde sunnite arabo-musulman, il n'y a plus aucun laboratoire de recherche. Et Erdogan, en ce moment, dans sa reprise en main idéologique de la Turquie, dans les classes, les sciences sont supprimées. Donc il y a de ce côté-là, si vous voulez, une volonté vraiment, pour moi, d'abêtissement. Et là aussi, pour reprendre un article du Monde, qui expliquait que quand on prenait sur une année la production littéraire, c'est-à-dire le nombre de livres hors Coran, publié par le monde arabo-musulman au sens large, on avait la production littéraire de l'Espagne. Et donc ça, c'est très significatif, c'est-à-dire l'offre intellectuelle d'ouverture au monde, car le livre, c'est vraiment ce qui permet de comprendre les autres, de s'ouvrir à d'autres réalités. Il y avait une espèce de rétractation,
d'appauvrissement,
ça sur fond de guerre, de tension, de peur, et de besoins identitaires, alors qui vous donne après Daesh, et puis derrière Daesh, vous aurez un super Daesh, un super Daesh, parce que malheureusement, il y a une espèce de logique terrible d'aller de plus en plus vers l'extrême.
Qu'est-ce qui distingue, on va essayer de faire le plus clair possible, qu'est-ce qui distingue fondamentalement, tiens, Myriam Benrad, Daesh de Al-Qaïda, ce que vous dites, l'État islamique a toujours voulu surpasser tous ses concurrents en matière d'horreur, notamment Al-Qaïda. Il y a quand même des désaccords idéologiques quand même, c'est pas juste il y a un qui décapite plus que l'autre.
Oui, alors il y a deux volets, pour faire les choses simples. Bon, déjà par rapport à l'ouvrage, juste rapidement, l'idée pour moi c'était aussi de permettre à un public français d'avoir accès justement à ces clivages idéologiques. Ouais. Alors maintenant concernant...
La différence entre les deux. La différence entre les deux.
La différence, elle est idéologique sur, par exemple, pour donner un exemple très concret, la pratique de l'excommunication, le fameux takfir en arabe, qui consiste à rendre non-musulman un musulman pour x ou y raison, ce qu'ils appellent les annulatifs de foi. Ils en parlent énormément dans leur propagande. Bon, Al-Qaïda, par exemple, s'est opposé du temps de Zarqawi à ce dernier, notamment c'était la position de Maqdisi, qui est un autre idéologue important du djihadisme, qui reprochait à son ancien disciple, puisqu'ils avaient fait de la prison ensemble en Jordanie, avant que Zarqawi parte faire le djihad en Irak, il a reproché à celui-ci d'avoir une pratique de l'excommunication beaucoup trop large. Et donc, ils se sont opposés là-dessus. Bon, ils s'opposent évidemment sur cela, ils s'opposent aussi aujourd'hui...
Sur la dimension territoriale aussi.
Bien sûr, puisqu'ils sont présents en Syrie, ils sont présents aussi en Irak. Il y a plusieurs factions, en fait, insurgées, derrière le drapeau noir de l'État islamique. D'ailleurs, Al-Qaïda a dit qu'une fois l'État islamique défait, l'insurrection allait continuer et que Al-Qaïda va reprendre le flambeau. Al-Qaïda qui est quand même à l'origine de cette insurrection radicale en Irak. Donc oui, il y a des disputes entre djihadistes pour le contrôle du territoire, pour le contrôle des combattants, pour le contrôle des ressources, pour le contrôle des populations et des esprits. Il ne faut pas partir du point de vue que c'est parce qu'ils sont en guerre contre leurs adversaires et l'Occident qu'ils ne sont pas en guerre aussi entre eux. Il y a une factionnalisation très importante. On le voit bien, l'opposition dite djihadiste, en tout cas radicale armée en Syrie aujourd'hui, elle est totalement chaotique. Il n'y a pas une opposition, déjà on n'est pas très clair sur les termes, radicaux, modérés, d'autre part, entre radicaux eux-mêmes, il y a des règlements de compte, des oppositions très fortes, donc il faut bien le prendre en compte, parce que c'est vrai que ceux qui se radicalisent dans nos sociétés, qui n'ont pas accès à cette réalité de terrain, et qui d'ailleurs ont été très déçus par leur expérience au sein du califat, là je parle de ceux qui sont de retour, ils n'ont pas conscience finalement aussi de ces logiques qui sont très propres à la région et à ce mouvement djihadiste lui-même.
Pierre Servant, c'est vrai qu'on a vu l'État islamique qui avait voulu faire un califat, se donner un territoire, ce que n'avait pas fait jusqu'à présent Al-Qaïda. Et on voit quand même qu'ils sont en concurrence, ça et là, comme le disait Myriam Benrad, Al-Qaïda versus Daesh en Afrique, Sahel contre Nigeria, par exemple, au Yémen aussi, ils sont tous les deux présents, la Syrie, il y a des groupes rebelles, notamment Al-Nusra dans le nord de la Syrie, c'est Al-Qaïda. En Afghanistan, Taliban versus Daesh. Voilà, les uns et les autres ne se respectent pas. Hein.
Non, il y a il y a eu des combats très très rudes et Daesh, donc l'État islamique en Irak et au Levant, a siphonné à partir de 2014 une partie des combattants d'Al-Qaïda sous la marque Al-Nusra. En Syrie, et il faut savoir qu'ils ont tué beaucoup de djihadistes français. De djihadistes français qui avaient rejoint Al-Nusra et qui ont été tués dans des combats. Et Daesh étant plus violent, plus déterminé, a pompé une partie de la matière, entre guillemets, d'Al-Qaïda. La comparaison que je prendrais avec, évidemment, des bémols, c'est un peu ce qui se passe en 17-18 du côté des bolcheviks. Entre les staliniens, enfin les partis de Staline, et disons la tendance marxiste-léniniste, entre ceux qui veulent étendre la révolution bolchevique à l'extérieur, et ceux autour de Staline qui estiment qu'il faut construire le bolchevisme à l'intérieur de la Russie, et puis ce qui n'empêche pas d'avoir des attentats, d'essayer de jouer sur des partis frères, mais d'avoir cette construction d'un califat bolchevique en Russie. On a un peu la même confrontation, ce qui se traduit aussi en termes, je dirais, militaires ou en termes de recrutement sur deux approches différentes entre Al-Qaïda, donc plus dispersées à l'international, menant des actions aux États-Unis, Daesh disant on s'épuise à aller frapper le grand Satan américain, on construit le califat, et on mène des actions dans différents pays, mais il faut construire cette base de départ. Et dans le mode de recrutement, il y a un recrutement radicalement différent. Al-Qaïda ne recrutait que des combattants. Il prenait des gens qui voulaient se battre, qui voulaient mourir, etc.
Et beaucoup de locaux, hein.
Des locaux, mais des internationaux aussi. En Irak, le chef de guerre d'Al-Qaïda est un Jordanien. Vous avez une internationale du djihado-terrorisme. Vous avez des gens, des Égyptiens, des Yéménites, des Algériens, etc. C'est une internationale. La position de Daesh est de dire on prend tout le monde. Les familles, le geek qui fait 100 kilos, il va nous faire de la cyberguerre, le garagiste, le spécialiste des pétroles, les familles entières, venez tous, on construit le califat. Donc ce qui fait que ça a attiré énormément de monde avec la promesse consistant à dire tu es persécuté dans ton pays parce que tu es porteur de la seule vraie religion, viens dans le califat apporter ton énergie et ta foi, et à partir du califat, nous allons rayonner dans le monde entier. Et c'est tout le problème de Daesh aujourd'hui, parce que ce califat est en train de se réduire comme peau de chagrin, mais donc Daesh va tenter de retrouver un nouveau souffle, sachant que, comme vous l'avez dit, les différentes succursales d'Al-Qaïda ont dû replier un peu la voile, parce qu'il y a eu une mode Daesh comme il y a eu une mode Al-Qaïda, mais là, ils vont essayer de reprendre la main dans différents territoires où ils sont implantés.
Eh bien, on continue dans un instant, justement, 7 jours dans le monde, ce hors-série consacré à Al-Qaïda et à Daesh, avec Pierre Servant, avec Myriam Benrad, qui publie donc l'État islamique pré-homo. Oui, on verra justement, une fois que Daesh disparaîtra du Moyen-Orient, où se repliera-t-il? Et puis comment Daesh prospère-t-il? Comment recrute-t-il justement? Rendez-vous dans un instant sur BFM Business, à la télé et à la radio.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et on continue, 7 jours dans le monde, gros plan donc, vous savez, ça fait partie de ces hors-séries qu'on essaie de vous proposer, histoire de, allez, d'appuyer sur le bouton pause justement, gros plan sur Al-Qaïda, gros plan sur Daesh, et on en parle toujours avec Pierre Servant, spécialiste des questions de défense, hein, qui a fait paraître donc au mois d'avril, les présidents et la guerre, 1958-2017. Myriam Benrad est avec nous, spécialiste du monde arabe, du Moyen-Orient, qui publie l'État islamique pré-homo. Voilà, tous les mots de l'État islamique, elle a eu le courage de regarder tout ce qui se passait sur les communiqués, les vidéos, etc. pour en faire une compilation, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la tête des combattants de Daesh. Tiens, justement, on parle d'Al-Qaïda, de Daesh. Est-ce que Al-Qaïda n'est pas en train de changer de stratégie? Al-Qaïda, c'est par exemple l'action contre Charlie Hebdo, c'est bien sûr évidemment le 11 septembre 2001. Là, c'était début mai, l'émir d'Al-Qaïda en péninsule arabique, c'est-à-dire au Yémen, disait clairement, s'adressait aux musulmans, fait facile, voilà, il faut agir facilement, recourir à l'action individuelle, un petit peu comme Daesh fait avec des voitures, oui, des camions, des couteaux, un tir de Kalachnikov par-ci, par-là.
Oui, alors ça c'est important comme question, parce que c'est vrai qu'avec...
Ils sont en train de changer de stratégie ?
Non, je ne pense pas qu'ils changent de stratégie. Il y a continuité. Ils essaient de reprendre la main, ça c'est ouais. évident, parce qu'on a dit qu'ils étaient déclassés, ringardisés, du fait de évidemment du succès qui a été celui de l'État islamique.
Pardon, j'ouvre une parenthèse. C'est vraiment le cas, vraiment, parce que là, la façon dont vous en parlez, on a l'impression qu'on parle de part de marché, on a l'impression qu'on parle d'entrée dans les cinémas.
Ah non, mais au niveau djihadiste, ouais. attendez, c'est des parts de marché. Sur le terrain, ils se disputent les combattants, les recrues, les esprits. Par exemple, un certain nombre de défecteurs, de déserteurs de l'État islamique ont rejoint les rangs d'Al-Qaïda, parce qu'ils trouvaient pas, ils étaient pas en accord avec l'idéologie de l'État islamique, ils trouvaient l'État islamique trop violent, ils étaient justement en désaccord avec cette pratique, comme j'ai dit, du takfir, l'excommunication, qui a conduit à des pratiques terribles. Certains Français qui avaient rejoint le groupe ont considéré aussi que c'était pas en accord avec les attentats qui ont été conduits en France, que c'était pas juste. Il y a aussi la question de la mort des civils, etc. Bon, est-ce qu'on doit tuer des civils innocents pour finalement aboutir à nos objectifs? Tout ça, c'est des vrais débats dans ces milieux militants. Alors, au niveau d'Al-Qaïda, évidemment, ils ont quand même attendu cette mise en déroute de l'État islamique depuis un certain temps pour justement tenter de se relégitimer, de reprendre la main, parce qu'on les avait dit ringardisés. Il y avait une dimension générationnelle aussi, hein. Un certain nombre de jeunes considéraient que finalement Al-Qaïda, c'était la génération précédente. Ouais. C'était plus séduisant d'aller dans les rangs de l'État islamique. Aujourd'hui, les choses changent. Sur les objectifs, il y a une communauté idéologique entre l'État islamique et Al-Qaïda. Ils s'en prennent tous les deux à l'Occident. Ils appellent tous les deux à des attentats individuels ou plus ou moins téléguidés. On a un peu, je dirais, tous les cas de figure. Mais concernant Al-Qaïda, par exemple, sur les objectifs, ils considèrent qu'avoir déclaré la guerre civile aux chiites en Irak, ce qui a été le fait d'Al-Zarqawi lorsqu'il était encore vivant, était une erreur, qu'il fallait au contraire frapper l'ennemi lointain, donc nos sociétés, et éviter de tomber dans la fitna généralisée. La fitna, c'est la division entre musulmans,
ouais.
Qu'il fallait éviter d'arriver à cet état de chaos, que ça desservait finalement leurs intérêts. Donc aujourd'hui, il y a clairement une OPA, hein. Ils essaient de revenir dans le jeu, profitant du discrédit,
avec
de la délégitimation.
Avec quel leader? C'est toujours Zawahiri pour Al-Qaïda?
Alors Zawahiri, et puis après un certain...
Qui était l'adjoint de Ben Laden. Hein.
Oui, et puis après un certain... Il y a le fils de Ben Laden qui s'est exprimé récemment, ACPA qui régulièrement aussi publie des communiqués, des déclarations, et puis aussi les chefs de guerre sur le terrain, notamment en Syrie, hein, qui clairement essaient aujourd'hui de reprendre la main.
Comment Daesh prospère-t-il, recrute-t-il, à qui il s'adresse justement? Est-ce qu'il a un côté encore attractif, surpuissant, compte tenu des coups qui se et sur lesquels on va revenir dans un instant avec Pierre Servent, le stratège, le spécialiste militaire?
Écoutez, pour être brève, il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions de recrutement. Il y a évidemment le terrain, hein, la guerre, le champ de guerre où on recrute des combattants parce que soit par opportunisme, soit parce qu'il y a des ressources, soit par conviction idéologique. Ils ont réussi quand même à convaincre un certain nombre, par exemple, de Syriens que la guerre civile en Syrie était une guerre opposant l'islam à ses adversaires, alors que ces derniers au départ partaient plutôt sur un combat qui pouvait être djihadiste, mais par exemple ancré dans en Syrie, donc dans le cadre national syrien. Bon, ça c'est sur le terrain. Dans nos sociétés, et c'est pour ça que je me suis intéressée à l'énoncé djihadiste, à cette parole djihadiste, dans nos sociétés, ils ont réussi à vendre un certain nombre d'individus qui avaient effectivement une guerre de l'islam entre l'islam et l'Occident, et qu'il fallait par tous les moyens atteindre ce même Occident à travers ses symboles, ses gouvernements, ses armées,
ses policiers,
ses forces de sécurité. C'est bien pour ça qu'ils prennent des soldats et des policiers aussi.
On a vu Orly, on a vu le meurtre de ce policier sur les Champs-Élysées.
Et tant qu'on n'a pas, il faut bien quand même le dire, ça c'est important, des politiques à la hauteur de l'enjeu, notamment justement par rapport à Internet, aux réseaux sociaux, à cette propagande qui continue de se déverser quotidiennement malgré les mesures qui ont été prises, et surtout tant qu'on n'est pas capable d'articuler une contre-propagande à la hauteur de l'enjeu, eh bien malheureusement, le tout militaire, le tout sécuritaire n'apportera pas des solutions de long terme.
Alors, on va voir dans un instant la lutte contre ces mouvements. Ce que vous dites, l'État islamique, par sa lecture binaire, conserve une immense capacité de conviction, d'attraction, susceptible de justifier les pires abominations. Pierre Servent, on voit donc le recul de l'État islamique sur le terrain. On l'a vu à Mossoul, scénario qui va se répéter à Raqqa. Les combattants de l'État islamique sont extrêmement déterminés. Rien n'est simple. Combien de fois vous nous l'avez expliqué ici dans 7 jours dans le monde, hein?
Oui, c'est une très grande complexité. Je vais répondre, mais peut-être juste d'un mot. Daesh, le génie malfaisant de Daesh, c'est d'avoir beaucoup misé sur la cyberguerre, la cyberpropagande, la cyberfascination, soit afin de recrutement, soit afin de sidération par l'horreur étalée, soit également la cyberformation, c'est-à-dire apprendre comment constituer des bombes en jouant par le cyber. Et ils se sont totalement professionnalisés. Al-Qaïda, c'était le noir et blanc hérité des Tchétchènes. Les premiers à avoir mis en scène la décapitation de soldats russes ou leur torture, c'est la deuxième guerre de Tchétchénie. Et c'est vraiment le démarrage. Al-Qaïda, Al-Zarqawi a repris ça avec les décapitations, mais c'était, encore une fois, c'était le passage du noir et blanc à la couleur, et Daesh a complètement professionnalisé cela, ce qui explique que vous ayez dans ces combattants, les services de renseignement estiment entre 20 et 25% de convertis, qui ont été convertis sur Internet. Donc c'est un phénomène tout à fait extraordinaire, incroyable. Et donc ils ont énormément travaillé là-dessus, et Al-Qaïda a été dépassé par cette révolution numérique djihad 4.0 ou 5.0, je ne sais pas combien.
Alors sur le terrain, les pertes de terrain justement.
D'abord c'est quand même l'effet notamment du travail de la coalition occidentale de frappe systématique de tout ce qui était statique, notamment les stocks de munitions, les fabrications, les lieux de fabrication des IED, les engins explosifs de fabrication artisanale, les endroits où se fabriquaient les voitures kamikazes. C'est aussi l'argent, notamment l'argent liquide qui avait été pris à Mossoul. Parce qu'évidemment, en Irak, ils ont énormément joué sur des tensions extrêmes entre le pouvoir majoritaire chiite qui a pris sa revanche sur les sunnites et qui a fait peser sur les sunnites un joug terrible qui fait que Daesh a pu assez facilement prendre Mossoul, une ville de 2,5 millions d'habitants, avec des banques pleine de devises et d'or, il y avait 600 millions de devises, et donc il y a eu des ciblages de là où étaient repérés les stocks d'argent liquide. Par ailleurs, la Turquie ayant changé de position, les flux pétroliers, les échanges pétroliers, qui ont fait d'ailleurs qu'à certains moments, l'Union européenne achetait du pétrole de Daesh sans le savoir, et achetait aussi du lin venu de champs exploités par des esclaves de Daesh, etc. Donc là, si vous voulez, tout ce travail de fond depuis des années, ça a été utile. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et là, on risque d'avoir plusieurs scénarios devant nous. D'abord, une sorte de d'émiettage de la guérilla, c'est-à-dire que le califat va se disloquer, mais des combattants vont rester et vont poursuivre un travail.
Pour se replier où alors? Ou en Afrique, en Afghanistan?
Non, ils vont rester sur place. Ils vont rester sur place par petites unités, c'est-à-dire faire d'une certaine façon ce que ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, fait en ce moment, on en parlera dans la bande du Sahel. C'est exactement le même esprit, donc poursuivre avec en permanence une espèce de bruit de fond, toujours en cherchant une grosse mise médiatique. C'est-à-dire petits moyens militaires, mais gros effets médiatiques en choisissant des lieux symboliques. Rappelez-vous, par exemple, dans la bande sahélo-saharienne, un hôtel en Côte d'Ivoire.
Ouagadougou.
C'était Grand Bassam.
Oui, c'était la plage Ouagadougou, de Grand Bassam, Ouagadougou, voilà, bien sûr. Et puis Bamako.
Des hôtels où il y a la communauté internationale. Donc, donc on va voir ça. Et puis vous avez des combattants qui vont repartir chez eux, qui vont essayer de repartir chez eux, sachant que là aussi les services estiment entre 80 et 90 pays concernés par des combattants étrangers qui sont allés combattre chez Daesh. Donc ça fait quand même beaucoup de monde sur les 193 pays de l'ONU. Donc vous avez aussi cette sorte de diaspora. Et puis il faut voir comment dans les autres pays qui avaient fait allégeance à Daesh, parce que vous avez eu ce phénomène un peu de franchise, comme il y avait eu pour Al-Qaïda. On va parler du Sahel tout à l'heure. Aussi dans le Sahel, l'ancêtre d'ACMI, c'est le GSPC, groupe salafiste de prédication et de combat, qui affiche la couleur d'ailleurs. C'est des groupes de combat. Salafistes, on en a parlé tout à l'heure. De prédication et de combat, c'est soit tu te convertis, soit je te tue. Mais donc, vous avez des groupes qui vont rebasculer, ou alors vous allez avoir une troisième génération, un troisième mouvement.
Troisième groupe.
Qui va apparaître. Hein. Si je peux me permettre juste un tout dernier mot pour montrer à quel point nous sommes surpris à chaque fois par ce qui se passe. En 2014, des journalistes américains interrogent Barack Obama en lui disant il y a un nouveau groupe terroriste, qui a un nom bizarre, État islamique en Irak et Levant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une menace majeure? Réponse de Barack Obama, non, c'est l'équivalent d'une équipe de football américain de troisième division.
Bien vu. Vous le sentez, ce troisième groupe, là, les fils et petits-fils d'Al-Qaïda, Myriam Benrad, ou pas pointé, ça et là?
Oui, non, mais ça, c'est évident. Enfin, c'est pas... À chaque fois, si vous voulez, on annonce la fin d'Al-Qaïda, la fin de l'État islamique, la mise en déroute de ces mouvements. Ce qu'on voit sur les 50 dernières années, c'est qu'il y a une montée en puissance. C'est évidemment aussi beaucoup, comme Pierre Servent l'a précisé, le fait de la révolution de l'information, des nouvelles technologies qui ont permis de rendre cette propagande initialement limitée à certains cercles militants, mais quasi mainstream. Hein, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à une vidéo de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, à un communiqué. Le côté multilingue aussi est très important, ouais, parce qu'au départ, c'était une littérature militante qui était en arabe classique, qui était donc accessible à ceux... un public
plus érudit,
et surtout plus limité. D'ailleurs, même au sein de la région, ceux qui ne parlaient pas l'arabe correctement, qui ne lisaient pas correctement, n'avaient pas accès à ces cette propagande.
Maintenant, ils font des beaux magazines en français, en anglais, en espagnol,
dans toutes les langues, en anglais, etc. Ils ont compris. Donc, ils se sont adaptés à l'évolution du monde plus largement pour, encore une fois, avec pour objectif, finalement, eh bien, de subvertir cet ordre mondial et d'en faire le leur. Alors, ils ont formé ce qu'ils appellent les lionceaux du califat, si on prend par exemple le cas de l'État islamique, il y a tous ces jeunes jeunes garçons, même ces jeunes filles, qui sont formés à l'ultra-violence, qui ont été formés à la haine, qui ont été formés à la haine des mécréants, la haine de l'Occident. Ça, c'est une question, par exemple, quand on discute du retour des familles françaises, enfin françaises, les enfants n'étant pas nés en France, ils sont apatrides.
Qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins qui ont 8 ans, 9 ans?
Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes enfants? Comment on les réintègre à la société? Parce qu'ils ont été élevés dans la haine. Et ça, c'est très important à dire. C'est une idéologie tout de même, et ça, je le dis dans l'ouvrage, de haine. Une idéologie de destruction, de mort. Et ça, il faut aussi la délégitimer auprès du plus grand nombre, y compris auprès des jeunes musulmans qui pensent prendre leur revanche, finalement, en adhérant à un message qui ne mène qu'à la destruction et qu'à l'impasse. Ça, il faut quand même le dire. Et on le voit aujourd'hui avec la question de Mossoul, par exemple.
Pierre Servent, on a parlé de Mossoul, on a parlé de Raqqa. Le président de la République, le président Macron, avait choisi le Mali, donc, et comme premier déplacement pour aller visiter les troupes étrangères françaises, donc déployées. Les troupes françaises, depuis 2013, à Gao, donc, il y a 1600 soldats, toutes nationalités confondues. Qu'est-ce qu'il en est d'Al-Qaïda? Est-ce que le Sahel est toujours une poudrière, justement? Est-ce que c'est une zone de non-droit? C'est grand comme l'Europe, cette zone couverte par l'opération Barkhane dans ces 6 pays.
Oui, effectivement. Donc, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, donc le G5 Sahel. Il faut souligner d'ailleurs la pertinence de la France après l'opération Serval, que d'avoir proposé à ces 5 pays de se réunir, de partager leurs renseignements. Pourquoi? Parce que les groupes de combat terroristes, ils sont mobiles, ils ne respectent pas les frontières. Et donc, il faut avoir une vision globale. Donc,
c'est 5 pays, bien sûr.
5 pays. De ce point de vue-là, il y a vraiment une intelligence de fonctionnement, de partage de renseignements. Il y a une mission de l'Union européenne pour la formation de l'armée malienne, parce que la France reste toujours dans sa posture de dire il faut aider, accompagner. C'est vrai qu'on a des moyens militaires pour bloquer la descente de colonnes djihadistes, mais il faut que les pays se prennent en charge. Et donc, c'est le travail de la France, c'est le travail de la force de l'ONU qui est également présente. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bon exemple de ce dont on parlait, c'est-à-dire la recomposition, le caractère mutant du virus ou de la métastase djihadiste qui bouge, qui se déplace, qui essaye de recoller avec des éléments. Et donc, il y a quelques semaines, donc vous avez plusieurs groupes terroristes autour d'une figure centrale au Mali qui s'appelle Yad Ag Gali, qui est un ancien Touareg malien radicalisé, qui s'est radicalisé vers l'islam fondamentaliste, ce qui n'était pas à l'origine, puisqu'il jouait souvent le rôle d'intermédiaire pour aider les pays occidentaux à récupérer ses otages. Yad Gali a fédéré d'autres éléments de combat, lui avait fondé Ansar Eddin, qui s'était accoquiné avec ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, vous avez d'autres groupes, Al-Morabitoun, etc. Et donc, ils ont fusionné pour essayer d'avoir une masse critique.
La guerre, elle est perdue dans le Sahel ou pas?
Non, mais ce que je dis depuis le départ, c'est que c'est des guerres de 15-20 ans. Ah. On est tout le temps en train de raisonner, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Mais pas du tout. On est tout à fait devant un nouveau cycle historique de violence, très différent, avec des conflits purulents un peu partout dans le monde, et comme toute maladie, avec des phases basses, des phases de crise, des phases d'explosion, des phases de contamination et des phases de repli. Donc, le combat qui est mené notamment par les forces spéciales françaises, par les armées conventionnelles françaises, 4000 hommes au total, 300 véhicules, des avions de combat, des hélicoptères, ce qui, entre parenthèses, coûte cher, et il faudrait peut-être que les Européens aident la France dans ce combat-là, ça marque des points, mais ce cancer, la métastase djihadiste, se renouvelle, revient, cherche les parties molles. Et la partie molle au Mali, juste pour terminer, c'est la faiblesse de la mise en place des accords d'Alger entre Bamako et le nord du Mali. Et c'est le cancer de toutes ces régions. Chaque fois qu'il y a des zones de non-droit, de populations abandonnées, de zones laissées par le pouvoir central, de problèmes de gouvernance ou de corruption, eh bien, Al-Qaïda, Daesh, les autres arrivent et prospèrent sur ce fumier.
Pierre Servent et Myriam Benrad, qu'on va retrouver dans un instant sur BFM Business, la suite de ce 7 jours dans le monde consacré donc à Al-Qaïda et à Daesh. Tiens, on verra justement, eh bien, si la lutte elle est uniquement militaire, est-ce qu'on peut conjuguer aussi avec peut-être des politiques de développement? On verra ça dans un instant, à tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, on continue encore pendant quelques minutes, hein, ce hors-série consacré donc à Daesh, à Al-Qaïda, toujours avec Pierre Servent, avec Myriam Benrad, ces 7 jours dans le monde sur BFM Business. Oui, on parlait de la lutte contre ces mouvements terroristes, hein, Pierre, Myriam, justement, on a parlé du Sahel, on a parlé évidemment de Mossoul, de Raqqa, on a vu que la France était en pointe aussi contre ce terrorisme islamiste avec ses opérations Barkhane, Chamal. Juste en France quand même, sur le territoire des pays touchés, en Europe hein, notamment, on voit donc des centaines d'hommes, de femmes qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés, de nombreux projets d'attentats déjoués. Juste un mot, les forces de l'ordre, c'est la nouvelle cible, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Myriam Benrad.
Oh, ça l'est depuis très longtemps. Ouais. En tout cas, dans les pays où le djihadisme s'est développé, notamment l'État islamique, ça fait 10 ans qu'ils prennent pour cible les forces armées irakiennes, la police fédérale, tous les symboles de ces gouvernements, de ces systèmes politiques dits tyranniques. Hein, les tawarites, le taroud, c'est la tyrannie au sens large, qui est l'une des cibles des djihadistes. Alors, écoutez, en France, parce que c'est vrai que les circonstances, elles sont différentes d'un pays à l'autre, mais en France, là où je pense que la lutte se trouve, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre Servent, c'est Internet. Hein. Il y a un vrai problème d'Internet, de propagande, d'exposition à un message qui a radicalisé un certain nombre de gens, qui passent à l'action ou pas. D'ailleurs, on sait qu'il y a une gradation hein, au niveau des services de renseignement, par exemple de la DGSI, hein, au niveau de l'appréciation des profils. Cela étant, tant qu'on ne touche pas ni à la propagande, ni à Internet, donc les canaux de diffusion de cette idéologie, on a un problème qui va perdurer. Donc c'est bien pour ça que depuis très longtemps, je dis pour ma part qu'il faut s'attaquer à Internet une bonne fois pour toutes et avoir une coopération à ce niveau-là entre gouvernements et avec les compagnies aussi hein, qui permettent depuis des années
de véhiculer. Alors oui, Pierre Servent, on parle de lutte militaire, on parle de lutte technologique, donc en effet, il faudrait s'intéresser davantage à ce qui se passe sur Internet. Est-ce que on peut envisager aussi d'autres actions, comment articuler davantage l'approche militaire avec les politiques de développement? C'est vrai que lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu donc à Gao, au Mali, il était accompagné du président de l'Agence française de développement. Est-ce que c'est un axe sur lequel il faut travailler?
Absolument, c'est stratégique. L'outil militaire que je connais bien, il est indispensable, il est absolument utile pour faire face au feu qui est dans la maison. Mais l'outil militaire, il est au service de la politique, de la diplomatie. Et dans le cadre politique et diplomatique, l'aide au développement, l'aide à la gouvernance, l'aide à la formation de forces armées locales, si possible le plus démocratique possible dans le comportement, la lutte contre les déserts en termes d'aide sociale, un des modes d'action, j'ai vu en Afghanistan avec les talibans, c'est vrai en Irak, c'est vrai partout, il fonctionne comme le faisait le Parti communiste français dans les années d'après-guerre, c'est l'entrisme par le social.
Voilà.
C'est-à-dire vous aviez
les militants
communistes extrêmement respectables qui allaient aider les gens en difficulté, un chômeur, une femme enceinte en difficulté, et derrière qui vendaient l'abonnement à l'humanité, la carte du PC. Eux, ils vendent la carte du salafisme derrière. Donc évidemment, le développement, surtout après les années de crise que nous avons vécues, l'effondrement du tourisme qui a encore contribué à créer ce chaos. Dans la zone du Sahel, des sécheresses sans précédent depuis plusieurs, presque décennies. Donc tous ces facteurs-là, et c'est là, Fabrice Lundy, où l'Europe a un rôle essentiel à jouer. Et la France, évidemment, la France le joue. Mais il faut aller plus loin. Il faut que les Allemands sortent de leur position consistant à accueillir des immigrés, enfin, ou des migrants plutôt. Ce qui est très bien. Alors tout le monde trouve ça formidable. Sauf qu'ils n'ont pas un soldat qui risque leur vie en opération. Donc il faut que les Allemands bougent. Il faut qu'ils arrêtent de penser que parce qu'ils ont enfanté un totalitarisme au XXe siècle, il ne faut pas se battre contre un totalitarisme dont ils ne sont absolument pas responsables. Et les Européens qui ont des bras de levier financiers, qui ont des comment dirais-je, j'ai des structures qui savent faire de la reconstruction, du nation building, de reconstruire, aider à la reconstruction de nations, qui a l'argent. C'est vrai pour la Syrie aussi. La seule force qui aura la capacité d'aider la Syrie s'il y a des accords politiques, c'est notamment l'Union européenne qui sait faire ce genre de choses. Donc, je crois que le fait que le président Macron relance l'Union européenne, en dehors des aspects strictement militaires,
bien sûr, budgétaires,
c'est les aspects politiques. Et puis, ce sont les aspects en termes de valeurs. C'est-à-dire que les valeurs que représente l'Union européenne, parce qu'elles elles sont fondées, ces valeurs, sur la réconciliation de deux ennemis mortels, la France et l'Allemagne, ça a une valeur importante pour le reste du monde aujourd'hui.
C'est vrai, Myriam Benrass, ce que vient de dire Pierre Servent est considérable. On sait comment certains mouvements terroristes ont pu aller prospérer, même se faire aimer des populations locales. Les talibans, peut-être, le Hezbollah, on aurait pu citer le Hamas, évidemment, dans la bande de Gaza. Ce que vous dites, dans l'État islamique pris au mot, Myriam, c'est concernant Daesh, quand même, il faut noter quand même des désillusions compte tenu de promesses non tenues aux populations, alors qu'ils avaient promis, quelque part, un progrès aux Irakiens et aux Syriens.
Oui.
On en est très très loin.
Oui, alors, il y a deux choses. Au niveau des populations, aujourd'hui, c'est la déception. Enfin, il faut quand même aussi savoir que toutes les populations civiles, si on prend le cas, par exemple, de Mossoul, n'étaient pas pour l'État islamique. Hein. Bon, après, ça l'a été dit aussi de manière très claire. Quand on a des territoires où l'État de droit s'est effondré, où il n'y a pas de gouvernance, ou alors où les élites politiques en place, qu'elles soient nationales, centrales ou locales, sont discréditées, eh bien, effectivement, le message des djihadistes, qui est un message de libération, un message de retour à l'État, un message de justice sociale aussi, face notamment à la corruption. Par exemple, la corruption endémique en Irak a été une des raisons pour lesquelles l'État islamique a rencontré un tel succès. Quand ils ont promis à la population qu'ils allaient éradiquer la corruption et avoir une gouvernance saine, eh bien, ça a parlé à un certain nombre. Alors, il est évident que derrière l'utopie, parce que le djihadisme est en large part une utopie, eh bien, quand les populations finalement font l'expérience de la terreur, de l'ultra-violence, de la cruauté, la corruption qui était finalement toujours aussi endémique, parce qu'il n'y a pas de raison que les partis politiques ou les pratiques bureaucratiques qui ont précédé diffèrent fondamentalement, oui, évidemment, c'est une déception. Hein. C'est ceux qui ont essayé finalement de voir en l'État islamique, comme vous le disiez tout à l'heure, un projet révolutionnaire qui allait fondamentalement changer les choses, sont aujourd'hui déçus. Et d'ailleurs, c'est important, accueille la libération par les forces irakiennes et la coalition. C'est là qu'on sort des schémas trop binaires qui consisteraient à dire que les Irakiens, par exemple, ne sont pas contents d'être libérés par la coalition. Ils
justement,
le sont tous.
Voilà, vous avez raison. Et on va terminer là-dessus, Pierre Servent. C'est vrai que le plus dur ensuite, ça va être la reconstruction politique. Hein. Qui va prendre la suite à qui va prendre la suite à Raqqa. 30 secondes, promis, on aurait pu dire encore beaucoup de choses.
C'est effectivement le défi, parce que nous sommes face à des puzzles diaboliques, puisque chaque pièce du puzzle bouge et a des formes différentes en fonction du pays voisin. Et tout dernier mot, tout ça se fait sur fond de poussées démographiques, de jeunesse dans ces régions du monde qui sont, abandonnées et qui peuvent être tentées pour être la chair à canon de tous ces mouvements-là. Et donc, c'est pour dire à quel point votre question sur le développement, elle est absolument fondamentale. Et l'Union européenne, si elle veut trouver un nouvel idéal, une nouvelle forme d'engagement en dehors de sa réforme intérieure pour les pays européens, il y a cet engagement qui est atteignable et qui est stratégique. Stratégique, sinon on va avoir 50 ans de guerre larvée devant nous.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Al-Qaïda, sur Daesh, dans ce hors-série de 7 jours dans le monde. On aurait pu en dire encore évidemment beaucoup plus. Un grand merci donc à Pierre Servent qui nous a accompagnés, comme il le fait régulièrement dans 7 jours dans le monde, tout au long de l'année, bien sûr sur BFM Business. On rappelle les présidents et la guerre 1958-2017, ça s'est arrêté donc en mai 2017, puisqu'il y a un nouveau président, vous le savez maintenant, c'est Emmanuel Macron. Et puis Myriam Benrass, aussi spécialiste du monde arabe, du Moyen-Orient, qui publie l'État islamique pris au mot. 7 jours dans le monde revient évidemment très rapidement dans une semaine sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.